却不够水麻里与几个人生舍落。
Études sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connaître, Jésus. Te connaître, il n'y a rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Ô Seigneur.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore ravis de vous retrouver sur cette antenne dans le cadre de cette émission Études sur Cantique. Nous allons cet après-midi faire le choix d'une chanson en anglais et nous allons avec plaisir faire le commentaire de cette chanson qui est intitulée Goodness of God que je vous laisse écouter.Dès à présent, et vous allez vous-même apprécier.
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me.All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
Yeah.
C'est le cantique que nous allons étudier dans l'émission de ce jour. Et vous le savez, d'habitude, nous vous faisons connaître les paroles de cette chanson. Et ensuite, nous passons aux commentaires avec l'autre Laurent. Et nous avons l'agréable plaisir de l'avoir avec nous dans ce studio. L'autre Laurent, bonsoir.
Bonsoir, Olivier.
Oui. Nous sommes là cet après-midi encore dans cette émission et je vais te demander de nous lire les paroles de la chanson qui se trouve en anglais. C'est un chant en anglais. On va découvrir ces paroles avec toi.
Et d'accord. Là, je vais commencer avec la version en anglais. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days have been held in your hands. From the moment I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. Deuxième couplet, I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And now I've lived in the goodness of God. Deuxième couplet toujours. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Troisième couplet, your goodness is running after. It is running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. And all my life, you've been faithful. And all my life, you've been so, so good. With every breath that I'm able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing. Because of my life, you've been faithful, and all my life, you've been so, so good with every breath that I'm able. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Donc, on a le rendu en français sous cette forme. Je t'aime, Seigneur, ta bonté. Ne faillit jamais. Là, on peut aussi mettre ta miséricorde. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Deuxième couplet. J'aime ta voix. Tu me conduis à travers le feu. Dans les ténèbres, tu restes auprès de moi. Je te connais comme père. Je te connais comme ami. Et maintenant, je vis par la bonté de Dieu. Troisième couplet. Ta bonté court après moi. Elle court après moi, je te consacre ma vie, je te la confie, oh, je te donne tout. Ta bonté court après moi, elle court après moi. Le refrain, toute ma vie tu as été fidèle, toute ma vie tu as été si, si bon. De tout mon souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Entre-temps, j'ai oublié le couplet, le refrain en anglais. And all my life you've been faithful, and all my life you've been so, so good with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God.
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
Of the goodness of God.
nous allons dès à présent, chers auditeurs, nous allons dès à présent chercher à connaître qui est l'auteur de cette chanson. Je crois que notre Laurent, que c'est Bethel Music qui a chanté ce cantique que nous écoutons là. Mais que sait-on de ce groupe, l'autre Laurent?
Bon, Bethel Music est un collectif de musiciens de louanges évangéliques. Et ils sont originaires de la Californie et qui chantent genre de rock chrétien, comme certains l'appellent. Et leur mouvement a un parcours tant soit peu similaire à celui de Hillsong. Mmh. Et là, il faut aussi rappeler que ouais. ce soit Hillsong et Bethel Music, à un moment donné, ils ont été influencés par les promoteurs de l'évangile de prospérité et le mouvement de parole de foi. Et aujourd'hui, dans cette lancée de mettre l'accent sur l'élément, je vais parler des émotions dans l'adoration. Mmh. Donc, il y a eu un clivage. Ils ont commencé par aller sur des terrains que beaucoup n'apprécient pas. C'est-à-dire okay. que tout est presque centré sur l'émotion. Okay. D'accord. Et, okay. et dans deux chansons, Closa et puis We Dance, quand on analyse le test, l'adoration est perçue comme la relation qu'on a avec un copain. Tu vois un peu les étreintes et tout ça là. Et quand des choses comme ça se glissent dans des mouvements qui se disent chrétiennes, nous avons la responsabilité de dire ça, pas question.
Oui, effectivement.
C'est important pour que l'adoration soit ce qu'elle doit être, l'adoration chrétienne. On ne doit introduire ni des valeurs des religions orientales, ni des éléments du monde dans l'adoration pour le rendre rendre cette adoration dans le vent, comme on le dit souvent, pour faire tendance. Non, l'adoration,
on est dans le mouvement.
C'est l'émanation de l'œuvre de l'esprit dans l'esprit du racheté qui le pousse à exprimer sa reconnaissance, sa gratitude, sa louange à Dieu. Donc c'est important de mettre l'accent sur ces points, parce que souvent les gens commencent bien avec Dieu et avec le temps, parce qu'on veut moderniser, on veut innover, on commence pas à glisser sans le savoir, et là, quand l'esprit vous quitte, vous ne saurez pas.
Oui. Rappelle-nous les deux chansons qui
Closer et puis We Dance. Quand on les écoute un peu, on est choqué de voir que ce qu'on dit là n'est pas très correct il s'agit de méditation.
C'est pour cela qu'il est important de bien comprendre les paroles qui sont qui sont dans ces chansons là pour bien les analyser, et c'est pour ça que l'émission est là. On essaie de voir si ces paroles sont conformes aux saintes écritures,
et dès que ce n'est pas conforme aux saintes écritures, là il faut pas faire preuve de il faut rejeter
parce que automatiquement
Dieu n'acceptera jamais la louange ou l'adoration qui vient des ténèbres, quand la louange et l'adoration sont inspirées par les ténèbres, il ne va pas l'accepter. Quand la louange et l'adoration émanent d'un cœur impie, Dieu ne va pas l'accepter. C'est pour cela que un pécheur ne peut pas louer Dieu. Il peut peut-être chanter, mais il ne loue pas Dieu. C'est même qu'après qu'il soit converti, racheté, purifié par le sang de l'agneau, qu'il est à même de louer Dieu, et son adoration est acceptée par Dieu.
Très bien. On va juste faire on va écouter un extrait de la chanson. Heureusement que ce n'est pas Closa que nous étudions, ce n'est pas non plus We Dance que nous étudions, mais c'est The Goodness of God que nous sommes en train d'étudier dans cette émission. Et néanmoins, nous avons compris que par cette chanson là que l'auteur a fait des expériences. Ai-je menti? De par les analyses,
je crois
qu'il a fait des expériences, a priori. Et on va essayer de découvrir ces expériences au fur et à mesure. On va commencer par écouter juste le premier couplet de The Goodness of God. On va écouter juste le premier couplet et on revient avec le commentaire.
love you, Lord. For your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake until I lay my head, oh, I will see of the goodness of God.
Bien, en écoutant le premier couplet, l'autre Laurent, quelle expérience l'auteur partage-t-il avec nous dans cette partie de la chanson?
Alors, l'auteur ici est en train de nous parler de la bonté de Dieu, d'accord, et de sa protection sur sa vie. Et on ne saura aller loin sans dire que la bonté, c'est la nature intrinsèque de Dieu. Quand le Seigneur s'est révélé à Moïse sur la montagne, il lui a dit l'Éternel, Dieu miséricordieux, et un Dieu qui pardonne et qui est riche en bonté. La bonté, c'est la nature de Dieu, ça fait partie, hein, c'est des facettes de la nature de Dieu, mis à part le fait que Dieu est fondamentalement saint et juste. Et là, c'est important, pourquoi? Parce que si c'est la nature de Dieu, ce doit être aussi la nature de ses enfants.
Ok.
D'accord. Là, je vais expliquer. Matthieu chapitre 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ah, on ne peut pas avoir un cœur bon
et aimer ses ennemis.
Voilà.
Oui.
D'accord. Non, on ne peut pas avoir, on ne peut pas naturellement avoir ce cœur.
Cœur bon et puis haïr ses ennemis.
Voilà. Merci. Ouais, c'est ce à quoi je voulais
parler. Oui, exactement.
D'accord. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Mais Seigneur, on doit les maudire, non? Non. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourquoi? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Tu vois le raisonnement? D'accord? Et alors, mais pourquoi Jésus dit ça? Car il fait lever son soleil sur les méchants qui ne connaissent pas Dieu et sur les bons qui sont des enfants de Dieu, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc Jésus est en train de nous dire, nous devons faire comme notre Père Céleste. D'accord? Il est bon vis-à-vis des méchants et des bons. Et il donne la pluie aux justes comme aux injustes. D'accord? Si on devait s'arrêter là-bas et juste nous poser des questions, la plupart des denrées que nous consommons, est-ce que ça vient des gens qui sont chrétiens?
Non.
Mais Dieu envoie la pluie dans leur champ. D'accord? Ceux que nous voulons tuer par la prière, des sorciers, tout ça là. Les sorciers vont au champ en plein jour. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, n'ont pas encore la grâce de connaître Dieu, ils vont au champ, ils font leur culture. Le produit des cultures est vendu au marché et nous les achetons. Alors donc, au-delà de ça, quand on parle de la bonté fait partie intégrante du fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit ne peut être manifeste que dans la vie de la personne qui est convertie. Galates chapitre 5, verset 2. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. La bonté. D'accord? La bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. C'est pour dire que ici, quand l'auteur parle de l'expérience qu'elle fait de la bonté de Dieu, c'est pour dire que vous voyez, avant notre conversion, Dieu a toujours été bon.
Oui.
D'accord? Et c'est cette bonté là qui a fait qu'il a fini par nous attirer à lui.
Exactement.
Et quand nous venons à lui, tel père, tel fils, il nous infuse cette bonté là. Et c'est ça qui choque le monde, parce que dans le monde, c'est coup pour coup. C'est le principe. Coup pour coup. Il m'a fait du mal, je lui ferai plus de mal pour que la prochaine fois, il n'essaie même plus de me faire du mal. Et quand quelqu'un vous introduit dans le corridor de vengeance-là, faites attention. Quand on vous le dit, jusqu'à ce que vous ayez expérimenté ce que Christ accomplit dans les cœurs, quand les cœurs sont purifiés, sanctifiés,
L'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit qui nous a été envoyé du ciel. C'est en ce moment que vous comprenez le message de l'évangile. Nous ne méritons pas d'être sauvés, mais il nous a sauvés par grâce. Et nous ne méritons pas non plus de demeurer dans sa présence. C'est en vertu du sang qui a coulé au calvaire. Et donc si nous comprenons la chose sous cet angle-là, notre désir sera d'aider ceux qui ne le connaissent pas encore à le connaître. Et donc, là, le texte que nous venons de lire nous montre clairement quelle est la nature, une des facettes de la nature de Dieu, la bonté. Et nous qui sommes ses enfants, nous devons aussi avoir cela en nous.
Oui, pour renforcer ce que tu dis et plus d'éclaircissement peut-être de ta part, il dit ta bonté ne faillit jamais. Et il dit tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, ou du moins au réveil déjà, jusqu'à mon coucher, tu es avec moi.
Oui, mais bien sûr, vous savez, beaucoup de choses se passent la nuit. Hein. Beaucoup de choses se passent la nuit, quand nous ne sommes plus en état d'éveil.
Oui, quand on est inconscient.
Nous devenons inconscients. Il y a des gens qui se couchent, qui se sont couchés et qui ne se sont plus réveillés.
Oui.
Mais sur le plan spirituel, il y a beaucoup de choses qui se passent à partir de 0 heure jusqu'à 4 heures du matin. Bien des choses se passent. Et si nous revenons à la vie le lendemain et que nous redevenons conscients de nous-mêmes, mais c'est la bonté de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons bien prié la nuit d'avant que nous sommes à même de nous réveiller le lendemain. Non. Quand on dort, n'est-ce pas? Seuls ceux qui ont une double vie, c'est eux qui, qu'après que le corps soit étendu là, qui sortent et qui vont aller faire des excursions dans le monde astral et tout le reste. Mais en tant qu'enfants de Dieu, quand nous nous réveillons, nous apprécions le fait que Dieu nous ait donné encore une chance d'être du nombre des vivants. C'est important.
Très bien. Et la conséquence de cette expérience, de cette première expérience que la personne a vécu, se termine par un engagement du premier couplet, un engagement qui dit ceci, je chanterai la bonté de mon Dieu. Ayant expérimenté maintenant, elle prend un engagement à chanter pour l'Éternel, à chanter la bonté de Dieu.
Oui, mais en tant que chrétien, quand on fait des expériences avec Dieu, la vie chrétienne, c'est une vie d'expérience. De bout en bout, c'est une expérience. La nouvelle naissance, c'est une expérience. Et quand on entre dans cette vie de l'esprit, c'est la vie de l'esprit quand on parle de nouvelle naissance. C'est-à-dire que naturellement, en tant qu'être être humain, c'est tout à fait normal que je fonctionne par les cinq sens, par mon âme et tout le reste. Mais lorsque Christ intervient dans ma vie, il y a une autre dimension de mon être dont peut-être je n'étais même pas conscient avant. C'est la vie de l'esprit maintenant. Le Saint-Esprit donne vie à mon esprit et me rend conscient des réalités de cette vie avec Dieu. La même Bible que j'ai lue quand j'étais juste religieux, quand je lisais pour le plaisir de lire, quand je reprends le même livre et que je lis maintenant avec l'aide du Saint-Esprit, ma compréhension devient tout autre. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu me permet maintenant de découvrir dans la parole que je suis en train de lire des réalités qui échappent à l'homme naturel. Donc là, si on comprend la chose sous cet angle, c'est tout à fait normal pour quelqu'un qui a expérimenté la manifestation de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu à son endroit, d'exprimer en retour sa gratitude, certains par les chansons, d'autres par des déclamations, des affirmations, des prises de décision pour être fidèle à ce Dieu qui nous a tant aimés et qui nous accepte malgré nos manquements, nos errements, nos égarements, nos faiblesses, nos failles et tout cela, et continue de nous aimer. On ne peut pas un seul instant s'arrêter et dire « je mérite ceci de la part de Dieu ». Non, c'est toujours sur la base de ce que Christ a fait à la croix. Dès que le jour où nous cessons de focaliser notre attention sur l'œuvre accomplie par Christ à la croix, nous allons être emportés loin de Dieu, sans nous en rendre compte.
Ok, d'accord, c'est compris.
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Cause all my life you have been saved.
Nous allons dès à présent aborder la partie refrain de cette chanson. Et dans le refrain, Ken Johnson partage avec nous sa deuxième expérience avec le Seigneur. Et je voudrais savoir de quelle expérience est-il question ici.
Bon, l'auteur nous parle de la fidélité de Dieu dans sa vie. Fidélité de Dieu, pourquoi ? Vous savez, on ne peut dire cela que suite à une série d'événements. On ne peut parler de fidélité que par rapport à la une promesse faite.
D'accord.
D'accord.
Oui.
Quand une promesse est faite et que l'on tient parole.
Oui.
Et justement, c'est en cela que Dieu est fidèle. Il fait la promesse et quand vous obéissez, vous allez par vous-même découvrir que Dieu est fidèle à ce qu'il a dit. Mais attention, c'est un Dieu fidèle et juste.
D'accord.
Autant il est fidèle pour accomplir ses promesses, autant il est fidèle pour accomplir ses jugements. Ce que beaucoup veulent maintenant occulter quand on parle de Dieu aujourd'hui.
Ouais.
Vous prenez le livre de Deutéronome, le chapitre 28,
oui.
Vous allez voir un aspect qui parle de bénédiction et un aspect qui parle de malédiction.
Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus nombreux. Hein.
C'est un grand nombre par
rapport aux bénédictions.
Oui, pourquoi ? Parce que c'est séquencé, c'est des châtiments séquencés.
Okay.
De façon systématique.
Oui.
Tu fais ça, je te fais ça. Mais si tu persistes, je ferai plus que ça.
Hmm.
Et donc, le point culminant de ce que, avant même que les enfants d'Israël n'aillent sur la terre promise,
oui.
Moïse avait dit cela, bien entendu, c'est Dieu qui l'a dit à travers lui. Et le point culminant, c'est que Dieu va chasser le peuple de la terre promise. Elle est dispersée. Au début, il dit, si vous péchez, bon, je vais fermer le ciel, il n'y aura pas de pluie, et ainsi de suite. C'est de cette réalité que le prophète Élie s'est emparé pour aller négocier auprès de Dieu dans la prière et obtenir maintenant le retour du peuple. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prier, il a su que là, il règle le problème avec Dieu. Il vient maintenant vers le peuple, il présente la situation. Le peuple s'est repenti, s'est détourné de ses mauvaises voies, et la pluie est venue. D'accord. Mais maintenant, quand vous lisez Deutéronome, vous allez voir, après que la sécheresse soit venue, il y a d'autres événements. Parfois même, c'est des bêtes sauvages qui viennent, ainsi de suite. Jusqu'à ce que des troupes étrangères viennent sur la terre promise, amènent le peuple en captivité et la diaspora. Aujourd'hui, vous parlez de diaspora togolaise, de diaspora française, tout le reste. Ce mot vient de disperser. Ils ont été dispersés. Ça a été écrit dans la parole. Et plus tard, quand vous étudiez les prophètes comme le prophète Jérémie avait annoncé la déportation, le prophète Ézéchiel, lui, il a été suscité comme prophète sur la terre où ils étaient déportés, à Babylone. Et lui, maintenant, fait des promesses en lien avec la nouvelle alliance. C'est lorsque, quand le peuple sera revenu, que sera enclenché la nouvelle alliance. Quand vous lisez Ézéchiel 36, vous allez voir ce que Christ va faire. Et là, quand on étudie la parole, on comprend pourquoi, quand Christ est venu, il a choisi des disciples, les a formés, deux ennemis. Pourquoi est-ce qu'il a soufflé sur eux? On n'a pas le temps pour rentrer dans ces détails. Pourquoi l'esprit est répandu à Jérusalem, non pas sur le temple, mais dans la chambre haute? Quand vous analysez les Écritures, c'est un tout. Voyez, si vous prenez des versets comme ça et ça et là, vous allez faire dire au texte que le texte ne dit pas. Donc, là, tout ceci nous donne de comprendre que Dieu est fidèle à ses promesses, mais aussi à ses châtiments. Et il faut comprendre la chose sous cet angle. Voilà pourquoi, quand le péché vient dans notre vie, n'hésitez pas, repentez-vous, détournez-vous de cette voie le plus tôt que possible. Parce qu'on ne gagne rien en vivant dans le péché. Parce que Dieu sera obligé. Par justice, il sera obligé de châtier l'enfant qui s'égare. Et là, c'est tout à fait normal. On l'a vu dans le cas des enfants d'Israël. Et donc, il ne va pas nous épargner de la verge si nous faisons ce qui n'approuve pas.
D'accord. Ici encore, la dame s'engage à chanter la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Elle s'engage.
Oui, bien sûr. Tu vois, en Israël, c'est vrai que avant que David ne vienne à être connu comme un personnage populaire en Israël, à l'époque, vous avez d'abord le prophète Samuel, il y avait déjà l'accent qui était mis sur la louange et l'adoration par le biais d'instruments de musique. Hein? Et là, quand vous lisez le texte de Samuel, vous verrez très bien qu'il avait une compagnie de prophètes à qui il déjà l'a enseigné comment entrer dans la présence de Dieu, comment adorer Dieu. Et c'est ce qui a fait que d'abord, parce que ces gens, ils savaient comment s'y prendre, que quand ils passaient, quand le jeune Saül était passé par là, donc la présence l'a imbibé, et là, il a prophétisé, les gens disent, Saül fait-il partie des prophètes et tout le monde. Mais lorsque David est venu, comme il a toujours été lui-même un petit musicien là dans la bergerie avec la flûte et tout le reste, mais avec maintenant l'esprit de Dieu, c'est avec lui maintenant que l'on découvre cet aspect musical de la vie d'adoration. Et donc c'est important ici, l'auteur dit clairement que son expression de gratitude ce sera par le biais de la musique. D'accord? Par le biais de la musique. Là, je vais lire peut-être de Psaume 71, verset 22. Je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. Donc, il y a différents types d'instruments de musique qu'on peut utiliser pour louer Dieu. Mis à part notre voix d'abord. D'accord? Il y a d'autres instruments. 86, Psaume 86, verset 11. Enseigne-moi tes voies éternelles. Ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité, dispose mon cœur à craindre ton nom. Tu vois, c'est quelqu'un qui loue Dieu avec des instruments, mais qui demande à Dieu de lui enseigner ses voies. Malheureusement, aujourd'hui, les artistes, pas tous, certains, quand ils commencent à chanter, ils sont plus là à l'église, alors qu'ils avaient toujours été là avec les autres. Hein? On peut être artiste et puis quand on fait tout, on revient encore au groupe musical et chanter avec les autres frères. Hein? Le fait que vous ayez de l'aura ne fait pas de vous un être à part, au point que d'un seul coup, vous n'êtes plus dans le groupe musical. Vous ne venez même plus à l'église. Vous disparaissez, vous réapparaissez juste pour un concert, ça et là. Ça ne montre pas l'objectif de la louange. La louange est adressée, la louange et l'adoration sont adressées à une seule personne. Et cette personne, c'est Dieu. Tu vois, donc, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu quand on parle de la louange aujourd'hui, qui devient un ministère, les gens le font. Si je le fais parce que je veux avoir de l'argent, on se demande, est-ce qu'en ce moment, la louange est adressée à Dieu ou bien c'est pour faire un spectacle hein? Voilà.
I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
Nous allons dès à présent aborder la seconde strophe ou le second couplet. Et dans cette partie de la chanson, nous avons toujours un partage d'expériences qui nous est donné. Ça, c'est la troisième expérience. Et la partie commence, ou bien la strophe commence de cette façon. J'aime ta voix,
l'autre Laurent, je voulais savoir quelle est cette troisième expérience que la dame a eu à faire avec le Seigneur à ce niveau.
Vous avez, c'est comme Dieu devient de plus en plus réel pour elle,
mm-hmm.
d'accord. Et là, quand il dit j'aime ta voix, ça veut dire elle a appris à identifier la voix du Seigneur.
La voix du Seigneur.
C'est vrai qu'au début de la conversion, c'est pas facile, mais qu'avec le temps et la culture de l'intimité, on arrive à savoir, d'accord. Et si on doit aborder cette question de la voix du Seigneur, comment le Seigneur parle, il y a des moments où vous n'entendez pas une voix audible. Mais si vous avez appris à l'écouter, vous savez. Quand il n'est pas content, vous savez. Quand quelque chose lui plaît, vous savez. Quand il est triste, vous savez. Tu n'entendras pas dire, mon fils, ma fille, je suis triste, mais tu sauras, dans ton esprit, tu sauras. Quand tu poses un acte qui ne lui plaît pas, il le signifie, il a sa manière de signifier et tu sauras. Et lorsque tu te répands et que, bon, ok, il est satisfait, tu sauras aussi. D'accord, ça se sait pour ceux qui ont appris à marcher avec Dieu. Donc ici, il est question de la direction divine, de sa présence. Parce que là, tu verras que il dit j'aime ta voix. D'accord. Bon, tu me conduis à travers le feu, dans les ténèbres, tu restes auprès de moi. Ici, c'est toujours l'expression, c'est des expressions comme ça qui sont utilisées pour parler du compagnonnage. C'est-à-dire que Dieu qui est comme un compagnon. Sinon, sous la nouvelle alliance, il réside en nous. Les anges sont autour de nous, mais il réside en nous. Mais maintenant, il y a des moments où Dieu peut choisir de se révéler comme quelqu'un qui vient vers toi. Comme Jésus vient vers toi, par exemple. D'accord ? Mais fondamentalement, il réside en nous. Maintenant, ce que je voudrais souligner ici, c'est qu'il dit, je te connais comme père, je te connais comme ami.
Comme ami, oui.
Mais tu vois, l'amitié.
Père, comme ami.
Comme père, ça veut dire au travers de Jésus, nous sommes fils et filles de Dieu, ça se sait. Maintenant, vous savez qu'en tant que parent, un père ou une mère peut avoir parmi ses enfants des amis.
Oui.
Et ça dépend de l'attitude de l'enfant. On dit, ah, c'est le chouchou de papa, de tel. Ça dépend de... C'est pas parce que l'enfant est impoli que le papa... Non. Ou que la maman l'accepte, non. Mais c'est cette disponibilité, cette disposition de cœur à faire ce que le parent veut. Donc, parmi les enfants de Dieu, il y en a qui sont plus proches que d'autres de leur Père Céleste. Donc, ici, je te connais comme père, je te connais comme ami, et je vis, et maintenant, je vis par la bonté de Dieu. Ça veut dire que c'est une forme d'expérience aussi de découvrir que même pour t'avoir connu comme père, pour t'avoir connu comme ami,
oui.
Si je vis,
oui.
C'est par la bonté de Dieu. Tu vois, lorsque le Seigneur se révèle à nous par sa parole ou par son esprit, ce qu'il attend de nous, c'est notre réception ou la réceptivité de notre part, notre engagement à aller dans le sens nouveau ou le chemin qu'il est en train de frayer devant nous. Pourquoi? Parce que il se pourrait que nous soyons habitués à une certaine manière de faire de Dieu. D'accord? Maintenant, lui, il dit non, il n'y a pas que ça. J'ai encore beaucoup d'autres aspects de ma personne que tu ne connais pas. Lorsqu'il ferait un chemin nouveau, il nous invite à aller dans ce sens. Et c'est cela que nous comprenons lorsque Dieu appelle le prophète, il amène qui vient sur la montagne, et là, il y a eu quoi? Le bruit, le vent, le feu, le tremblement de terre, tout ça là. Et mais, le texte dit, Dieu n'était pas dans le vent. Quelle est la leçon que Dieu veut lui enseigner? Tu vois un peu? Parce que chaque révélation est assorti de leçons. Chaque vision est assortie de leçons. Et donc ici, l'auteur maintenant dit, je comprends maintenant que si je suis vivant, c'est par ta bonté. C'est la même chose. Quand vous prenez le cas d'Abraham, par exemple, quand il était en Mésopotamie, quand Dieu l'avait appelé, vous analysez le texte de Genèse 11 et Genèse 12, vous allez voir que dans Genèse 12 là, ce n'est pas le jour là que Dieu l'avait appelé. Dieu l'avait appelé avant. Il était parti, mais il a quitté la maison de son père, mais il n'a pas quitté son père. Il est parti de la Mésopotamie, oui, mais il est arrivé à Charan, où il est resté jusqu'à ce que son père ne meure. D'accord? Dans son cheminement, oui, mais son père est parti, mais il n'a pas quitté sa parenté, puisque Lot a toujours été à ses côtés. Parce que Dieu n'avait pas appelé Lot. C'est Abraham que Dieu a appelé. C'est pour cela que dans Ésaïe 51 dit, souvenez-vous d'Abraham, votre père, lui seul, je l'ai appelé.
Tu vois un peu? Et l'autre a été là avec lui jusqu'au jour où ils se sont séparés. Et quand vous étudiez maintenant le texte, vous méditez bien, vous allez voir que quand l'autre s'est séparé d'avec Abraham, il y a une autre façon dont Dieu s'y est pris pour lui communiquer sa vision pour sa vie. D'accord? Donc, quand on étudie la parole, là, on découvre des choses qui échappent à quelqu'un qui lit la Bible juste comme cela. Donc, là, et plus tard, maintenant, Dieu appellera Abraham son ami. Et dans Genèse 20, il dira que c'est un prophète. Quand le roi Abimélec a voulu jouer avec Sarah, tout ça, là, oui. Dieu est parti le menacer à cause de qui Abraham était pour lui. Il a menacé. Et il lui a dit, attention, là, tu vas aller régler ce problème-là, aller demander pardon. Et il priera pour toi et pour ton peuple. Pourquoi? Parce que c'est un prophète. Donc tu vois que ce que Dieu veut, c'est cette amitié, cette intimité-là. C'est ce que le Seigneur veut. Même chose, hein, quand il a suscité David, même chose. Hein. Quand il dira plus tard, j'ai trouvé David un homme selon mon cœur. Mais au moment où il choisissait David, David n'était pas un homme, c'était un petit garçon. D'accord? C'était un petit garçon. Peut-être à peine il est entré dans l'adolescence. Et pourtant, Dieu a pris le risque de prendre un petit enfant pour en faire un roi. Et nous tous, nous savons ce qui se passe durant la période de la puberté avec les dérives et tout ça. Mais Dieu a pris sur lui et il a réussi et il a fait de lui un roi selon son cœur. Et c'est le seul roi en Israël qui avait mis Dieu au cœur des affaires de l'État. C'est pour cela que David était spécial pour Dieu. C'est le seul. Quand vous prenez, plus tard vous allez voir, certains rois étaient venus parce qu'ils ont assassiné ceci, celui-ci a tué tel. Et certains même n'ont même pas reçu d'onction. Mais des gens venaient comme ça. Et en Israël, c'est tout un désordre. Et après, ce qui devait arriver était arrivé. C'est important de comprendre ces choses. Lorsqu'on s'attache au Seigneur, lorsqu'on cultive cette intimité, les choses de ce monde perdent de leur attrait sur nous. D'accord? Et naît en nous alors la passion de connaître davantage le Seigneur. Et ça, c'est important pour nous. Et quand ces choses vous arrivent, personne ne vous dira, faut plus que tu cours derrière ces trucs proposés par le monde, c'est des légèretés en parole, en attitude, en manière de se parer. Il y a plein de choses que les gens font aujourd'hui. Vous savez en même temps qu'ils n'ont pas été loin avec le Seigneur. Quand ce sera même pour vous une erreur que d'accepter ce que le monde vous propose et qui viendra vous souiller, vous allez refuser. Et tu vois un peu. Donc, Christ nous appelle à le suivre. Et c'est une vie particulière, c'est une vie spéciale. Et c'est une vie unique que nous développons dans notre marche avec lui le temps que nous passions par ce monde avant d'entrer dans l'éternité.
Très bien. Nous allons aborder le troisième couplet. Alors, à ce niveau-là, elle fait une quatrième expérience qui est un peu, je vais dire, un peu bizarre. C'est l'expérience, je l'ai qualifiée d'expérience de la bénédiction. Elle dit, ta bonté court après moi. Bon, c'est ce qu'elle dit, et que je traduis par bénédiction divine. Hein, ça court après elle. Mais c'est tout à fait le contraire que nous vivons aujourd'hui. C'est nous qui courons vers, alors que elle, c'est une autre expérience qu'elle a eu à faire.
Oui.
Alors, moi, est-ce que c'est moi qui ai mal compris?
Oui, mais dans ce que tu es en train de dire, là, si
on en anglais, c'est bien dit, hein?
Israni aftami. Oui. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose que le Seigneur a clairement déclaré. Et beaucoup ne veulent pas obéir à Dieu. Il dit de chercher premièrement. Chercher premièrement. Si je vais enfoncer le clou, chercher uniquement.
Waouh.
Le royaume de Dieu et sa justice.
Uniquement.
Faites de cela votre passion.
Juste ça. Pas autre chose.
Non. Soyez comme quelqu'un qui. Tu vois, vous voyez les chevaux là. Les chevaux, à l'époque où il n'y avait pas de voiture, où on utilisait les diligences. Les chevaux avaient une sorte de plaquette là, au niveau de leur tête, pour les empêcher de regarder à gauche et à droite. Donc, ils ont des œillères là, placées à gauche et à droite. Et donc, ils sont focalisés. Faites de Jésus la passion de votre vie. Et vous allez voir que parfois, vous n'avez même pas besoin de prier pour certaines choses.
Ça viendra de lui-même.
Ça vient. Et puis vous n'allez même pas jeûner pour être béni. Pourquoi? Vous développez une relation avec quelqu'un qui est immensément riche. Quand la Bible parle de la richesse dans le Nouveau Testament, c'est une erreur que de penser aussitôt au matériel. Oui. Non. Cette richesse-là, c'est ce que certains appellent la perle de grand prix. Vous découvrez la perle de grand prix. Vous, dans ce monde-là où tout est chaos, cauchemar, bruit autour de vous, et vous arrivez à découvrir la personne de Jésus. Et il devient réel pour vous. Vous ne voudrez pas, pour quoi que ce soit venant de ce monde, perdre cette intimité-là. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. La bénédiction n'est pas essentiellement matérielle. Non, elle est avant tout la réalité de la prise de conscience de notre identité en Christ. Et cette communion, là, je vais juste utiliser deux apôtres, parler de deux apôtres là qui nous ont dit cela. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9, l'apôtre Paul dit ceci: Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Comment Paul a su? C'est dans la communion qu'il a compris que l'objectif de Dieu en nous sauvant, c'est de nous introduire dans cette intimité-là. Ça échappe au sens de l'homme naturel. Ça échappe à la religion. C'est pourquoi Jésus a dit, il y a une porte qui est spacieuse, large. Beaucoup entrent par là. Mais il y a une porte qui est étroite. Il y a peu qui trouvent cette porte étroite et le chemin resserré qui découle de cette porte étroite. Très peu. Cette vie d'intimité-là, de marche avec le Seigneur, où à des moments donnés, pour pouvoir progresser, il y a des moments où Dieu exigera de notre part un plus. D'accord? Et là, il dit, c'est à cela que nous avons été appelés. Et Jean dira la même chose, mais de façon plus détaillée, Jean chapitre 1, le verset 3. Ce que nous avons entendu, et ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est de cela que le Seigneur faisait allusion quand il a dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adore en esprit et en vérité. Et cette communion, cette adoration en esprit, en vérité, n'a pas besoin d'un support matériel. Vous ne pouvez pas présenter une image en disant que ça c'est Jésus et vous appuyer sur ça pour entrer en communion avec lui. Ça, ce sera de l'idolâtrie. Sous l'ancienne alliance, c'est de l'idolâtrie. Sous la nouvelle, c'est de l'idolâtrie. Donc, tu vois, ici, ce dont l'auteur est en train de parler, c'est cette bénédiction-là, cette vie consacrée de don de soi, attire la faveur de Dieu sur notre vie. On n'a pas besoin de jeûner. Pourquoi tu jeûnes? Je jeûne pour que Dieu me bénisse. Non. En venant dans ce monde, Dieu a un programme pour notre vie. Chacune de nos vies. Notre vie réelle commence le jour où nous découvrons pourquoi nous sommes dans ce monde. Dieu, pourquoi tu m'as fait venir dans ce monde? Dieu, pourquoi tu m'as sauvé? Le jour où tu découvres ça, tu n'iras plus à l'aventure. D'accord? Si tu as appelé pour être choriste, tu ne chercheras pas à devenir autre chose que choriste. Si tu as appelé à être pasteur, tu ne chercheras pas à devenir apôtre. Parce que c'est un titre que les gens aiment aujourd'hui. Si tu as appelé à être évangéliste, tu vas rester dans les limites de ton appel. Si tu as appelé à être quoi, apôtre, tu vas rester dans les limites de ton appel. Il faut découvrir pourquoi tu es venu dans ce monde.
D'accord.
Et là, tu apprends maintenant à marcher dans les limites, dans le périmètre du plan et de l'appel de Dieu pour ta vie. Sinon, tu vas aller à l'aventure, hein. Tu vas aller ça et là, jusqu'à ce que, à un moment donné, tu te rends compte que tu as fait du surplace, tu n'es allé nulle part. Et Dieu te dira, où tu es actuellement là, je ne t'ai pas appelé là.
Voilà.
Ce que tu es en train de faire actuellement là, ce n'est pas moi qui te l'ai dit.
Oui.
C'est les hommes qui t'ont influencé, ou bien c'est toi-même qui l'as fait. Et là, tu vas perdre de longues années comme ça, et puis tu te rendras compte que tu étais hors du champ de Dieu.
Très bien. Toujours dans cette logique-là, elle dit que la bonté court après elle, ou bien après moi, mais elle dit, au-delà de ça, elle se consacre à Dieu. Oui. Je répands ma vie, je te la confie, je te donne tout. Elle pouvait ne pas le faire. Pourquoi a-t-elle fait ce pas? Un autre pas
de consécration.
Il y a un risque. La bénédiction de Dieu est une chose très merveilleuse, mais il y a aussi un risque.
Oui.
Et le risque, c'est de s'éloigner de Dieu.
Voilà.
Lorsque nous ne gérons pas bien l'appel que nous avons reçu, les bénédictions que Dieu déverse dans nos vies, on peut devenir léger dans notre adoration.
Léger.
Moins conséquent.
Oui. C'est fréquent dans le corps de Christ aujourd'hui. Hein. Très fréquent.
Oui.
Hein, c'est très fréquent. On est béni par Dieu et puis on s'écarte un peu, on ne vient plus à l'église.
C'est dans la nature de l'homme. Hein. Quand tu vois Abraham, par exemple, il a failli aussi expérimenter ça.
Ah bon.
Parce que Ismaël était né, Abraham savait que ce n'était pas ça la promesse de Dieu. Ce n'était pas l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais lorsque Isaac est né, quand il voit chaque jour cet enfant, la vie de cet enfant lui dit, Dieu est capable de tout faire.
Mm-hmm.
Nous deux là, vieillard, moi-même un vieux comme moi, et Sarah aussi.
Vieillard.
Et cet enfant est sorti de Sarah, j'ai pu engendrer cet enfant. Donc tu vois, ça l'occupait.
Il était content.
Oui. Et donc, c'est comme, il y a déjà une sorte de faille dans sa consécration, dans son adoration à Dieu. Et donc, Dieu a dû le tester. Le test avait pour objectif de le ramener, de lui dire, hé, Isaac là, c'est moi qui te l'ai donné. Mais tu ne peux pas m'oublier et focaliser ta attention sur Isaac. Donc, c'est une grâce que Dieu nous accorde lorsque il nous ramène de nos égarements. Lorsque nous dévions de notre appel, c'est une grâce. Hein? Tu as vu, par exemple, quand tu prends le cas de Samson, Dieu l'avait béni. D'accord? Il avait une force extraordinaire. Quand on vous montre les images de Samson, c'est comme quelqu'un qui allait à la salle de gym. C'est pas de cela que le test biblique parle. Ce n'est pas parce qu'il est musclé qu'il pouvait défoncer les portes. Non. C'est parce que naturellement, ce qu'il ne pouvait pas faire, l'onction qui était sur lui le rendait capable de le faire. Mais, à un moment donné, il a été léger dans sa vie et il a ouvert une brèche dans sa vie, surtout dans le domaine de la moralité et il sait ce qu'il a été suivi. C'est la même chose pour David, mais pour lui, dans son cas, il a été sincère, il a reconnu qu'il a mal fait, il est revenu à Dieu et il a été restauré. Dans Jérémie chapitre 31, je vais lire quelques versets ici, verset 18, j'entends Éphraïm qui se lamente, tu m'as châtié. J'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai. On ne dit pas ça à Dieu. C'est à toi de revenir. C'est pas Dieu qui te fait revenir. Lui, il te rend conscient de ton état et tu choisis de revenir. Car tu es l'Éternel, mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse, je suis honteux, je suis confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. C'est quelqu'un qui décide maintenant de revenir à Dieu. Donc c'est une grâce pour Dieu de ce que, quand quelqu'un s'éloigne, il utilise tous les moyens possibles pour nous dire, reviens vers moi.
Reviens.
C'est une grâce. Mmh. Certains, peut-être, n'ont pas cette grâce-là et ils continuent donc, jusqu'à ce qu'ils aillent à la dérive et ce, pour l'éternité.
D'accord. Mmh. L'autre Laurent, pour finir, en deux mots, que doit-on retenir de ce chant?
La vraie adoration va au-delà de l'émotion. C'est l'exercice de notre volonté en obéissant à la parole de Dieu.
Mm-hmm.
Il ne faut pas juste se cantonner sur l'instantanéité du chant ou de la danse et tout le reste. L'adoration, c'est la vie par l'esprit.
Mm-hmm.
La vie chrétienne, c'est une expérience de bout en bout.
Okay.
Vous comprenez?
Okay.
Quand on chante peut-être dans 5 minutes, oui, c'est je t'aime, je fais ce que je veux, et puis bam, quand on finit, on redevient normal. Non! Le je t'aime que j'ai dit quand j'étais sous l'émotion et autres là, il faut que ce je t'aime là soit là permanemment.
D'accord.
D'accord. Okay. Je dois obéir à Dieu parce qu'il est digne qu'on lui obéisse, qu'on se soumette à lui.
Merci l'autre Laurent, merci également à vous qui nous avez suivis ici à Lomé et ailleurs dans le monde. On va s'arrêter là et la semaine prochaine, si le Seigneur tardait à revenir, on se reverra. Mais en attendant, on vous laisse avec la chanson, avec la version française de Goodness of God que je vous laisse à présent écouter. La version française, la bonté de Dieu.
je t'aime Seigneur. Ta bonté ne faille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu.
Toute ma vie, tu as été si bon.